Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques.
Hey, bonjour tout le monde, c'est Yann Agemeau sur le Francophone. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Ariane Larrault.
Salut Yann.
Salut, ça va bien?
Oui, ça va.
Oui, alors suite à notre dernier balado sur notre expérience première vague du COVID, ça a été vraiment un franc succès. On a eu beaucoup de réactions sur Twitter. Durant ce balado-là, on discutait très rapidement de l'hydroxychloroquine et de la chloroquine. Et on voulait faire une suite là-dessus, telle qu'on vous l'avait promis. Donc, avec l'annonce toute récente de l'OMS de suspendre tous les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine suite à la publication du Lancet du 22 mai dernier, alors on se demandait si c'était pertinent de faire un balado sur l'hydroxychloroquine. Moi, je pense que oui. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Ariane?
Oui, ben en fait, j'ai suivi beaucoup le sujet là, depuis le début de la pandémie. L'objectif, c'était de faire un balado sur ce sujet-là un peu plus tôt. Mais à toutes les semaines, il y avait des nouveaux développements, donc ça devenait difficile là, de publier et tout en restant à jour. Mais à ce jour, le 27 mai, je pense qu'il est encore pertinent d'en discuter, en fait, pour clore le dossier, pour vraiment faire un survol de l'historique de toutes les publications qu'il y a eu sur le sujet, puis de comprendre comment on est passé d'utiliser l'hydroxychloroquine à large échelle. Donc, on s'entend, là, ça a été fait de façon mondiale. Jusqu'à ce jour qu'on est rendu avec un avis de l'OMS qui nous dit qu'il suspend tous les essais cliniques sur l'utilisation de cette molécule-là. Donc, pour bien apprendre de nos erreurs, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis, on trouvait vraiment important là, de faire un survol complet là, du sujet, puis de faire un peu l'historique de qu'est-ce qu'il y a eu comme publication qui explique un peu qu'est-ce qui s'est passé là, avec l'hydroxychloroquine en temps de COVID.
Ouais, effectivement, je pense que ça peut être une belle leçon qui pourrait servir dans le futur. Si je me rappelle bien, tout a commencé avec la chloroquine, hein? C'est bien ça?
Oui, c'est ça. Donc, en fait, on pensait que les antipaludismes auraient un effet bénéfique en COVID parce qu'on a observé dans des études in vitro que la chloroquine serait efficace contre différents virus, dont certains coronavirus. Donc, la molécule de la chloroquine, donc la même chose avec l'hydroxychloroquine, aurait un effet antiviral en alcalinisant le pH qui est requis pour faire la fusion entre la cellule et le virus. Donc, dans le fond, on vient bloquer le phénomène d'autophagosome. Puis il y aurait aussi possiblement un effet là, d'interférence au niveau du récepteur sur lequel le virus se lie pour rentrer dans la cellule. Donc initialement, on peut dire que théoriquement, ça faisait du sens d'étudier cette molécule-là. Puis autour du mois, au début de la pandémie, là, en mars-avril, on avait peu de données in vivo qui appuyaient l'utilisation en particulier de la chloroquine. Sauf une espèce de guide de traitement qui venait de la Chine, qui bien entendu étaient les premiers là, à avoir vu du COVID. Là. Donc, on s'est beaucoup fié un peu à leur expérience clinique. Puis eux, dans le fond, ils citaient un rapport préliminaire d'observation chez plus de 100 patients qui semblait montrer que la chloroquine diminuait la sévérité de la pneumonie, diminuait les durées de symptômes et la durée de la détection du virus. Mais c'était vraiment comme une espèce de rapport de cas. Là.
OK. Ici en Amérique, les cliniciens ils se sont rapidement tournés vers l'hydroxychloroquine plutôt que la chloroquine, compte tenu que l'hydroxy présentait à peu près le même mécanisme d'action que la chloroquine, mais avec moins d'effets secondaires, c'est ça, hein, je pense?
Donc oui, c'est ça. L'hydroxychloroquine aurait aussi une activité immunomodulatrice qui pourrait contribuer à son effet anti-inflammatoire. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise là, dans certaines maladies comme la polyarthrite rhumatoïde.
OK. On sait que la maladie de COVID, c'est une maladie avec un fort processus inflammatoire, là, le fameux cytokine storm. Donc, dans un aspect théorique, c'est quand même logique de s'intéresser à la molécule dans le contexte du COVID. On sait que c'est un peu plus sécuritaire que la chloroquine, mais qu'il y a quand même des précautions à prendre, puis il y a même des contre-indications aussi hein, avec l'hydroxy.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, la crainte qu'on avait surtout avec ces molécules-là, c'est l'allongement du QTC. Bien entendu, pour les risques d'arythmie. Là, on s'est beaucoup rassuré en disant, c'est quelque chose qu'on peut surveiller en faisant des ECG. Donc, je pense que les cliniciens n'étaient pas trop inquiets avec cette précaution-là. Il faut savoir aussi là, que les personnes qui ont une déficience en G6PD peuvent développer de l'hémolyse. Donc, c'est bon de suivre les formules sanguines complètes. Puis, il faut aussi faire preuve de prudence avec les patients avec insuffisance rénale et ou insuffisance hépatique, parce qu'en fait, on ne sait juste pas vraiment la pharmacocinétique là, de cette molécule-là lorsqu'on a des atteintes au niveau de des organes éliminateurs. Donc, on suggère de faire preuve de prudence, puis peut-être même de diminuer d'emblée là, les doses. Donc, c'est ça, c'est des petites... c'était un profil là, qui était quand même rassurant. Donc, je pense que ça a aussi fait en sorte qu'on est allé vite fait là, vers l'hydroxychloroquine.
Puis, il fallait être prudent un peu chez les épileptiques, je pense, hein, parce que ça abaissait le seuil convulsif.
Oui, exact.
C'est OK. C'est intéressant quand même comme molécule, là, surtout que c'est une vieille molécule. Ce qui est drôle, c'est qu'en avril, on parlait de l'hydroxychloroquine comment à quel point c'était prometteur. Puis maintenant, un mois après, on a fait complètement un volte-face à 180 degrés. C'est quoi qui s'est passé finalement?
Oui, fait que là, pour répondre à cette fameuse question-là, on va devoir passer à travers l'historique des publications qu'il y a eu sur le sujet, puis il y en a eu quand même beaucoup, donc ça se peut que ce soit un peu exhaustif, mais on va essayer de faire ça rapidement.
En passant, toutes les études dont on va vous parler, et même plus, vont être dans les notes de la balado, là, pour que vous puissiez faire votre propre opinion, pas juste vous fier à la nôtre.
Oui, exact, on va vous mettre les références. Donc, en fait, suite aux données in vitro, il y a eu les fameuses publications du groupe français Gautrey et ses collaborateurs, dont le fameux docteur Didier Raoul, qui semblait fortement en faveur de l'hydroxychloroquine. En fait, si on regarde là, vraiment juste les abstracts, par exemple, ou les titres de ces papiers-là, ça semble un traitement qui est extraordinaire. Puis comme l'utilisation de l'hydroxychloroquine est beaucoup partie de ces publications-là, je pense que ça vaut la peine de décortiquer un peu plus ce papier-là.
Oui, ça c'est le papier français, là, celui qui a fait le plus jaser. Est-ce que c'était une étude randomisée contrôlée, celui-là?
Ce n'est pas une étude prospective, en fait c'est une étude rétrospective, et ce n'est pas non plus une étude qui était randomisée. En fait, ils ont recruté des sujets avec un test positif à COVID qui nécessitait une hospitalisation. Donc, ils ont offert à tous les sujets de recevoir le traitement, qui était l'hydroxychloroquine à la dose de 200 mg à prendre par la bouche 3 fois par jour pendant 10 jours.
Oh, c'est quand même une bonne dose, là. Est-ce que malgré cette dose élevée-là, est-ce qu'on avait un groupe contrôle?
En fait, si un sujet refusait de prendre le médicament ou s'y présentait une contre-indication, il faisait partie du groupe comparateur. Mais il faut comprendre qu'il n'y avait pas de contrôle avec un placebo. Donc, dans l'article, ils expliquent qu'ils ont pris des sujets d'un autre centre qui n'avaient pas accès au traitement parce qu'ils n'avaient pas assez de sujets dans leur groupe comparateur, mais ils ne précisent pas vraiment comment ils ont fait pour sélectionner ces patients-là dans cet autre centre-là.
Oui, c'est quand même une première faiblesse, ça. C'est déjà en partant. Au bout de la ligne, ils ont réussi à recruter combien de sujets?
Bon, ils disent qu'ils ont inclus 48 sujets. Mais en réalité, quand on regarde les grilles de résultats, il y a seulement les résultats pour 42 sujets. Donc, on a 6 patients qui ont été perdus au suivi ou qu'on a décidé de juste enlever des analyses. Puis les raisons qu'ils donnent, c'est que les patients étaient soit décédés, transférés aux soins ou avaient eu congé de l'hôpital, mais théoriquement, il aurait fallu les inclure quand même là, dans l'analyse. Puis ça représente, juste pour vous donner une idée, là, 15% de leur échantillon. Donc, c'est quand même important comme lacune. Bon, là, on parle en fait de résultats de négativation du PCR. Donc déjà là, c'est pas un outcome qui est si intéressant que ça, mais au jour 6, 57% des patients qui avaient reçu l'hydroxychloroquine avaient un PCR négatif contre 12% dans le groupe contrôle. C'est un résultat qui peut sembler impressionnant, mais quand on le rapporte en chiffre absolu, donc 18 sujets sur 26 contre 2 sujets sur 16, ça fait un effet beaucoup moins sensationnaliste parce qu'on parle d'un petit échantillon.
Ouais. Il me semble que certains patients avaient reçu également de l'azithromycine avec ça, puis ils avaient l'air à considérer que les résultats étaient meilleurs lorsqu'il y avait une combinaison.
Encore là, je pense que c'était quelque chose qui a été rapporté de façon très sensationnaliste parce qu'en fait, c'était seulement 6 patients qui avaient reçu la combinaison. Ouais. Puis là, ils disaient que le traitement de la combinaison était à 100% efficace. Mais on parle de 6 patients.
Oui. Je pense pas qu'on peut vraiment utiliser les proportions de 100% d'efficacité sur un N aussi petit que ça. En tout cas, la question que je me pose, puis peut-être que beaucoup de nos éditeurs sont posés, parce que je me l'ai supposé, surtout en début de traitement, c'est quoi l'intérêt de l'ajout de l'azithromycine? Est-ce qu'il y avait vraiment une activité contre le COVID ou c'était juste pour couvrir ce que tout le monde pensait au début empiriquement, les surinfections bactériennes?
Je me suis posé la même question. Je me suis dit, je vais lire l'article pour voir sur quelle hypothèse ils ont fait ça, mais en réalité, ils n'en parlent pas du tout dans l'article. Il faut faire davantage de recherches. En fait, l'azithromycine a quand même des propriétés intéressantes pour le COVID. On pense que l'azithro aurait des propriétés antivirales contre, par exemple, le H1N1 ou le Zika. Il y a aussi des espèces de propriétés immunomodulatrices là, ou anti-inflammatoires en jouant sur la cascade de l'interleukine 6. Donc ça, c'est quand même intéressant là, dans le COVID parce qu'on sait que cette cascade-là a un rôle à jouer dans le cytokine storm. Puis finalement, il y a aussi là, les fameuses propriétés antibactériennes là, qui peuvent toujours être utiles là, si on suspecte une surinfection dans le contexte du COVID.
OK. Alors, bon, globalement, ça ne semble pas être un papier très, très impressionnant malgré qu'il ait fait sensation. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce papier-là?
Ben, en fait, c'est un mauvais devis, une sélection des sujets qui est un peu douteux. On ignore si les groupes sont comparables. On n'a pas vraiment d'informations sur les caractéristiques des patients. L'objectif primaire de négativation du PCR est, à mon avis, peu intéressant, surtout compte tenu des lacunes qu'on connaît là, avec les PCR nasopharyngés. Puis c'est un très petit échantillon de patients. Là. En plus, dans leur protocole, ils mentionnaient qu'ils voulaient regarder des outcomes de sécurité et des outcomes plus cliniques, mais ils n'en ont jamais reparlé dans le reste du papier. Donc, est-ce qu'ils ont essayé de camoufler certaines informations? Je ne sais pas. Là. D'ailleurs, le même groupe d'auteurs, donc le groupe de Français là, dont notre cher docteur Raoul, ont publié un deuxième papier suite à leur première publication avec un plus gros échantillon là, de 80 sujets. Cette fois-ci, ils ont donné à tout le monde la combinaison hydroxychloroquine et azithro. Puis là, ils ont rapporté des outcomes plus intéressants, comme la durée de séjour, la nécessité d'oxygénothérapie, le taux de contagion. Mais cette fois-là, il n'y a aucun groupe comparateur. Donc finalement, on a des chiffres qu'on ne sait pas trop quoi faire avec parce qu'on ne sait pas si c'est simplement l'évolution naturelle là, de la maladie chez un groupe de patients qui était à faible risque de complications. Donc c'est ça. Donc ça fait pas mal le tour des fameuses données positives sur lesquelles on s'était basé là, pour donner ça.
Ouais. Alors, dans les faits, je pense que c'est surtout les médias, les réseaux sociaux qui se sont enflammés au début, hein, initialement. C'est sûr que quand il y a une nouvelle maladie, on cherche des médicaments rapidement, puis un petit groupe d'auteurs qui donnait des résultats qui semblaient extraordinaires. C'est sûr que ça plaît à l'esprit. Je dis les médias puis les réseaux sociaux, mais on voit bien aussi que beaucoup de professionnels de la santé dont nous sommes se sont beaucoup tournés vers l'utilisation de la molécule, l'hydroxychloroquine. Après ça, ben, il y a dû avoir d'autres publications sur le sujet. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu avant qu'on parle du papier du Lancet qui est sorti cette semaine en date du 22 mai.
C'est ça. En fait, il y a eu d'autres études observationnelles qui semblaient montrer soit pas d'effet ou même une possible augmentation de la mortalité, dont un exemple, c'est l'étude sur un registre de vétérans, là, donc vous pourrez voir dans les références. Mais comme ce sont toutes des données observationnelles, ben, on dirait qu'on se dit « Ah, ben, c'est d'autres... » On ne peut pas vraiment encore se baser là-dessus pour prendre une décision. Donc, il faut dire qu'il y a aussi eu, après le papier français, une petite étude randomisée contrôlée chinoise de 60 sujets qui semblait montrer une différence d'une journée pour la résolution de la fièvre et de la toux en faveur du groupe hydroxychloroquine et possiblement même une amélioration radiologique de la pneumonie chez ces patients-là. Il faut prendre en compte que c'était une population de patients qui étaient peu malades, mais c'est sûr que cette publication-là nous a peut-être encouragés là, à continuer d'en donner pour ceux qui en donnaient déjà. Après le 7 mai, une étude randomisée contrôlée a été publiée qui est probablement la plus grande étude randomisée contrôlée sur le sujet. Donc, c'est de là, je pense, qu'on a commencé à voir la fin là, de l'épopée là, de l'hydroxychloroquine.
Oui, je pense que nous aussi, c'est à peu près à cette époque-là qu'on a arrêté d'en donner. C'était quoi la méthodologie de cette étude-là?
Donc, c'est ça. C'est une étude randomisée contrôlée multicentrique qui a été aussi effectuée en Chine dans 16 centres différents. Eux, ils ont randomisé 150 adultes atteints du COVID qui nécessitaient aussi une hospitalisation. Donc, ils donnaient hydroxychloroquine 1200 mg par jour pendant 3 jours, puis 800 mg par jour pour 2 à 3 semaines là, selon la présentation du patient. On s'entend, c'est quand même des bonnes doses, là, des doses supérieures là, aux autres études. Le groupe contrôle, eux, recevaient un traitement standard. Donc, malheureusement, il n'y avait pas l'utilisation de placebo, mais ils recevaient le traitement standard. La plupart des patients aussi l'ont reçu l'azithromycine, donc c'est quand même quelque chose à garder en tête. Leur objectif primaire, c'était la négativation du PCR au jour 28, qui était pas différent entre les deux groupes. Donc, dans les deux groupes, c'était environ 85% des patients qui avaient négativé leur PCR au jour 28. Ils ont aussi regardé les PCR au jour 4, 7, 10, 14 et 21. Puis les délais pour la négativation du PCR, puis il n'y avait pas de différence non plus à ce niveau-là. Finalement, dans les outcomes secondaires, ils ont regardé les différences au niveau de la résolution des symptômes. Puis, il n'y avait pas de différence là non plus, sauf pour une résolution plus marquée de la CRP et de la lymphopénie chez les patients qui recevaient l'hydroxychloroquine. Par contre, après, il faut voir est-ce qu'il y a vraiment un impact sur nos patients là, de cet outcome-là, je l'ignore. Donc, c'est ça. Puis au niveau de la sécurité, c'est quand même intéressant de voir là, à ce niveau-là. Eux ont noté plus d'effets secondaires, bien entendu, dans le groupe hydroxychloroquine, mais c'était principalement des diarrhées. Puis selon eux, ils n'ont eu aucun cas là, d'arythmie de rapporter.
Quand même assez spécial avec les doses 1200 mg par jour, là. Quand même beaucoup d'hydroxychloroquine. Mm. Fait que finalement, c'est assez décevant là, comme résultat de cette étude-là.
Ouais, c'est là qu'on a commencé à voir qu'il y avait peu de bénéfices à le donner, puis peut-être même plus d'effets secondaires, quoique eux ont pas rapporté plus d'arythmie, mais ça reste que il y avait vraiment pratiquement le double d'effets secondaires dans le groupe traitement. Puis ensuite, il y a eu l'étude chloro-COVID, qui est en fait une autre étude randomisée contrôlée, cette fois-ci avec placebo, mais sur la chloroquine, qui a été effectuée au Brésil. Puis eux, en fait, on fait deux bras de traitement. Donc, un bras traitement chloroquine à haute dose, puis l'autre bras à faible dose, puis un bras contrôle, bien entendu. Puis malheureusement, ils ont dû arrêter prématurément leur étude parce qu'il y avait une hausse de la mortalité dans le bras à haute dose. Donc, c'est là aussi qu'on a commencé à dire, oh, OK, bon, c'est avec la chloroquine, mais quand même, là, il y a vraiment un signal d'augmentation de la mortalité chez les groupes traitement.
Une vraie dangerosité, là, dans
exact.
Les faits. Là.
Ouais. Exactement.
Alors, l'étude du Lancet, pour arriver à cette fameuse étude, semble avoir enterré quasiment définitivement l'hydroxychloroquine.
C'est ça, ça vaut la peine d'en décortiquer un peu plus. Là. C'est une étude d'analyse de registres de 671 différents hôpitaux dans 6 continents. Donc, c'est une étude là, qui inclut 96 032 patients. C'est énorme. Ouais. Les patients étaient tous COVID positifs, bien entendu, nécessitaient aussi une hospitalisation. Puis, en fait, eux, ils ont fait l'analyse ils ont analysé en plusieurs groupes. Le premier groupe, c'était les patients qui avaient seulement reçu la chloroquine. Le deuxième groupe, chloroquine plus l'utilisation d'une macroline. Le troisième bras, hydroxychloroquine seulement. Quatrième bras, hydroxychloroquine plus macroline. Et finalement, on a le groupe contrôle là, qui ont reçu aucun de ces traitements-là. Ils ont aussi exclu là, les patients qui avaient reçu le remdesivir, là, comme on sait qu'il y a un petit signal à ce niveau-là aussi là, de bénéfice. Donc, ils ont utilisé comme outcome primaire la mortalité intra-hospitalière. Ils devinent quoi?
Ben, augmentation de la mortalité, j'imagine.
Ouais. Donc, dans tous les groupes comparés avec le groupe contrôle, et ce, malgré l'ajustement pour de multiples variables confondantes. Donc, on parle d'un taux de mortalité de 9% pour le groupe contrôle contre 24% dans le groupe hydroxychloroquine avec macroline. Donc, quand on parle macroline, on parle d'azithromycine ou de clarithromycine. Donc, c'est vraiment le groupe où il y avait un plus haut taux là, de mortalité, là, celui avec l'hydroxychloroquine plus le macroline. On peut aussi parler en chiffres. Là, si on regarde le hazard ratio, c'est de 1,33 pour l'hydroxychloroquine seule et de 1,44 pour la combinaison là, avec un macroline.
Oui, quand même assez significatif.
Oui. Les auteurs notent aussi là, une augmentation statistiquement significative du risque d'arythmie ventriculaire de novo. Et mine de rien, on parle de 8% pour la combinaison hydroxychloroquine-macroline contre 0,3% dans le groupe contrôle.
Oh, quand même. C'est des résultats assez inquiétants. Est-ce que tu considères que c'était une étude qui était globalement bien faite?
Ça reste une étude rétrospective, là, observationnelle, mais compte tenu qu'on a un échantillon qui est tellement élevé, c'est quand même très intéressant.
Oui, on est loin du N de 6 Dr. Raoult.
C'est ça. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours tenir en compte les biais de sélection qui peuvent s'insérer, puis aussi avec des ajustements statistiques qui ne sont pas toujours à 100% fiables. Mais moi, ce que je trouve le plus impressionnant dans cette étude-là, c'est de voir à quel point l'utilisation de l'hydroxychloroquine s'est répandue partout dans le monde. On parle dans tous les continents, dans le fond. Donc, c'est vraiment une utilisation qui s'est faite là, vraiment de façon mondiale. C'est assez impressionnant. Puis, si on regarde aussi leur figure 1, je vous recommande d'aller la regarder. Elle est assez intéressante. On peut voir les prédicteurs qui sont indépendamment liés à une hausse ou à une baisse de la mortalité. Les facteurs qui sont reliés à une hausse de la mortalité sont les traitements qu'on vient de discuter, mais aussi toutes les comorbidités. Donc, ça, on le savait déjà, là, hypertension, diabète, MPOC, tabac. Puis, les éléments qui sont protecteurs, ce serait possiblement l'utilisation d'IECA et de statine. Hmm. C'est quand même intéressant.
Quand même intéressant de comprendre l'historique des publications sur un sujet. Là, ça explique un peu mieux là, la réaction des cliniciens face à son utilisation. C'est toujours tentant de vouloir donner quelque chose parce qu'on veut offrir un traitement à nos patients. Comme je le disais tantôt, ben, quand on a une nouvelle maladie, on veut agir, on veut faire quelque chose. C'est pas dans notre nature de rester stoïque. Il y a quelqu'un qui pourrait dire, bof, ben, c'est relativement bien toléré, on peut suivre le QT. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Qu'est-ce que tu y répondrais à ça? Parce que c'est quelque chose qu'on a entendu beaucoup, qu'on s'est même dit nous-mêmes. Alors, on se disait, tant qu'à surveiller, allons-y, puis voyons ce que ça donne. Qu'est-ce que t'en penses?
Bien, c'est sûr, premièrement, je dirais, écoute notre balado.
C'est excellent.
Pour bien comprendre. Non, mais pour vrai, il faut avoir une... C'est important de faire la revue, la littérature. Oui, c'est facile. À un moment donné, il y a tellement de publications qui sortent que c'est facile de juste lire les grands titres, de lire les abstracts, puis de dire, ah, ben ça fonctionne probablement, on va y aller vers ça. Mais il faut faire l'exercice là, de critiquer davantage ces études-là. Il faut aussi... T'sais, je dirais à cette personne-là, il faut prendre en compte là, que les patients, une fois qu'ils sont admis à l'hôpital, puis surtout aux soins intensifs, là, vont souvent avoir déjà une atteinte rénale, une atteinte hépatique, même une atteinte cardiaque avec le COVID. Donc, ils sont déjà plus à risque de développer des effets secondaires ou de développer une toxicité importante là, à une molécule comme l'hydroxychloroquine. On sait, là, l'arythmie, ça peut être létal. Puis moi, en tout cas, je serais vraiment... fâchée là, que, par exemple, on donne ça à ma mère, qu'elle décide d'une arythmie alors qu'elle aurait pu très bien éviter cet outcome-là si on n'avait pas donné ce traitement-là, qui, en plus, ne semble même pas montrer de bénéfice là, jusqu'à maintenant.
Absolument.
Il faut aussi comme pas banaliser les effets secondaires comme la diarrhée, puis les hypoglycémies, puis même l'hémolyse à la limite, parce que ça peut prolonger la durée d'hospitalisation des patients, puis après, le patient peut attraper un C. diff, puis etc. Donc, il faut pas non plus banaliser là, ces effets secondaires-là.
Ouais. Bon, je pense que c'est clair que l'hydroxychloroquine n'a pas vraiment sa place là, pour nos patients admis aux soins intensifs. Mais est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que ça pourra encore être utile si on l'initie un peu plus tôt dans le développement de la maladie? Hein? Il me semble qu'il y a quelques études qui semblent aller dans cette direction-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, ça c'est intéressant parce qu'en effet, toutes les études qu'on a parlé aujourd'hui, c'est chez des patients qui ont nécessité une hospitalisation. Donc, on est souvent rendu dans les jours 5, 7 de leur maladie ou même plus tard. Alors que le principe théorique là, qui nous avait intéressé initialement avec l'hydroxychloroquine, c'est son effet antiviral. Donc, son effet est probablement plus bénéfique quand on est dans une phase de réplication virale importante, qui est plus dans les premiers jours, dans les jours moins 1, moins 2 là, des développements des symptômes. Donc, faut pas non plus... peut-être qu'il va y avoir une niche là, de patients qui pourraient en bénéficier. Mais faut apprendre de nos erreurs puis pas l'utiliser d'emblée là, sans avoir les évidences robustes là, qui vont appuyer l'utilisation de cette molécule-là dans ce contexte spécifique-là.
Ouais. Je pense que le fait que la molécule était déjà facilement très disponible, très peu dispendieuse, ça a contribué au fait qu'on en a donné beaucoup. Mais peut-être qu'il aurait été plus sage d'attendre les résultats. Je pense que tout le monde était pressé puis il ne pouvait pas attendre une étude randomisée contrôlée. Un peu comme on est en train de faire, à contrario, avec la colchicine, hein? Présentement. Ça semble être mieux, même si c'est ça semble être mieux fait, mieux pensé, mieux réfléchi, même si la molécule est facilement disponible à côté de rien, à l'image de l'hydroxychloroquine.
Mais c'est ça, en préparant le balado, je me suis dit pourquoi est-ce qu'on est allé si vite vers l'hydroxychloroquine, alors que la colchicine, c'est un peu le même principe, tu sais, au niveau du mécanisme d'action, puis au niveau de la disponibilité qui est déjà là, que c'est pas cher. Donc, puis je me suis dit, peut-être que c'est le fait d'avoir, avec la colchicine, d'emblée, décidé d'aller vers une étude randomisée, contrôlée, avec un super bon devis. Donc, on va se donner une petite tape dans le dos, là, Montréal, c'est quand même un projet de Montréal. Là, donc, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir été d'emblée vers une étude d'envergure qui a fait en sorte, bien, tout le monde s'est dit, on va attendre les résultats, puis on ne va pas se donner la peine de faire des petites études boboches, là, observationnelles. On va tout simplement attendre les résultats préliminaires avant de commencer à en donner à tout le monde. Donc, je trouve que c'est une belle leçon d'être critique envers les études, de se dire peut-être que ça vaut la peine là, d'aller directement vers une belle étude bien faite avant de publier d'autres petites études
Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, Ariane. Je pense que la nature, la médecine, les pharmacies ont tous horreur du vide. C'est probablement pour ça qu'on a sauté sur l'hydroxychloroquine. Tant mieux si on l'a bien fait avec la colchicine. Je pense qu'il faut attendre les publications un peu plus solides pour donner des traitements, par exemple, comme la colchicine qui est en train de se faire à l'Institut de cardiologie de Montréal. J'espère que ces informations-là vont avoir été utiles pour vous. Je pense que si vous prescrivez encore de l'hydroxychloroquine, je pense que c'est le temps d'arrêter. Ou si vos patients arrivent avec ces prescriptions-là, je crois que c'est tout à fait sage d'arrêter de donner ce traitement-là. J'espère que ça a été utile puis que vous avez eu un bon résumé. En tout cas, Ariane a fait un excellent résumé. Je voulais te remercier parce que c'était un travail de moine. Hein, puis ça a été à refaire et relire, échanger tes références.
Oh, j'ai 10 versions.
Je comprends. Puis tout ça, puis c'est la preuve que c'est ce qui se passe dans le COVID. Hein. Tout change tellement vite. Et je vous rappelle qu'il faut tenir compte qu'aujourd'hui, on est le 27 mai. Donc, il faut y aller avec les dates actuelles. Puis peut-être que dans 3 semaines, 1 mois, 1 an, les choses vont être différentes. En attendant, faites attention à vous. Continuez à lire, continuez à nous écouter. J'aimerais ça avoir votre opinion sur Twitter, sur tout ce qu'on vient de se dire. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Suivez-nous sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Google Podcasts, notre site Le Francophone et Spotify. Merci, au revoir, salut Ariane.
Merci, à la prochaine.
Bye.
L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.